Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série La victoire finale. Nous arrivons à l'étude numéro 10 et le titre sera Le chemin de retour vers le Seigneur. L'Église glorieuse sera accueillie par son époux lors de l'événement décrit par l'apôtre Paul en 1 Thessaloniques, chapitre 4, versets 15 à 18. Ce travail de préparation n'est pas récent. Le Seigneur institua ces temps de restauration pendant la génération de Martin Luther, et cela plusieurs siècles en arrière. Le Seigneur commença d'agir souverainement sur terre à cette époque-là. Systématiquement, il se mit à restaurer les grandes vérités fondamentales du Nouveau Testament, ces vérités qui furent perdues pendant les 1000 ans, ces 1000 ans qui étaient connus sous les noms de l'âge de ténèbres ou de haut Moyen-Âge. Le christianisme était alors devenu païen en principe et en pratique. La grande vérité fondamentale, le fondement même du christianisme, fut rétabli lors du réveil au temps de Martin Luther. Rappelez-vous, quand il a dit « le juste » vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Ceci est la pierre d'angle de la théologie néo-testamentaire. Nous sommes sauvés seulement, oui, seulement par grâce, et cela par la foi, à cause de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Je ne suis donc pas sauvé à mon grand âge, parce que j'ai dit au Seigneur que je désire être son esclave d'amour pour le servir jusqu'à ma mort. Je ne suis donc pas sauvé à cause de cela, pas du tout. Chers amis, voici la dernière étape avant le ciel. Il reste une seule pièce du mobilier dans le tabernacle avant d'arriver à l'Arche de l'Alliance, et cela en dessous du propitiatoire. L'Arche de l'Alliance se trouve en dessous du propitiatoire. Et cette pièce, c'est l'autel d'or. L'autel d'or ou l'autel des parfums, elle se trouve devant le propitiatoire, lequel représente le trône de Dieu. Ainsi, le rétablissement de la vérité représentée par l'autel des parfums nous place directement devant le trône. C'est la démarche finale de l'Église avant d'entrer dans la gloire devant le trône de Dieu. J'aimerais insister là-dessus. Cette dernière pièce de mobilier du tabernacle représente la dernière grande vérité devant être révélée. Dans le passé, la révélation de chaque vérité venait dans le feu du réveil. Le prochain réveil, il sera le dernier avant que nous nous trouvions devant le trône de Dieu représenté par le propitiatoire. Tout cela indique ce jour parfait, rempli de lumière, qui se trouve au bout du chemin du juste. C'est le jour parfait où un peuple restauré sortira d'une dimension pour entrer dans celle de la gloire du Shekinah, la dimension où on le verra face à face. La question se pose, que préfigure l'autel d'or? Que sera l'ultime réveil? Qu'y a-t-il en nous qui doivent encore être restaurés? Que pouvons-nous savoir de cet événement à venir? En fait, nous pouvons en savoir beaucoup. L'étude minutieuse d'une ombre peut nous en dire long sur la nature de l'objet initial. L'autel d'or était l'autel destiné à l'offrande de l'encens. De quoi cela nous parle-t-il dans le Nouveau Testament? C'est dans Exode au chapitre 30 que l'on voit la première allusion à cet autel. Le modèle et toutes les indications ont été données à Moïse. Il était placé tout de suite devant l'arche et les propitiatoires. Ainsi, Moïse est appelé en quelque sorte par Moïse, l'autel très saint. Et seul Aaron et ses fils avaient le droit de se servir de cet autel. Il était inaccessible aux sacrificateurs lévitiques. Les souverains sacrificateurs ne pouvaient donc pas utiliser que pour brûler de l'encens. Une seule sorte de parfum pouvait être brûlé sur cet autel selon Exode chapitre 30, verset 9. Il est dit, « Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande, et vous n'y répandrez aucune libation. » Alors, que veut dire cela pour nous aujourd'hui? Avant tout, c'est un autel qui est destiné à l'encens. À travers les Saintes Écritures, l'encens représente toujours la prière et l'adoration. Toute prière est comparée à la fumée de l'encens se levant depuis l'autel. La prière, la véritable prière, est comme de l'encens pour Dieu. Cet autel représente la vie de prière et de louange du croyant. Dieu nous dit quelque chose au moyen de cet autel d'or. Il représente le nouveau ou le renouveau actuel surtout de nos prières d'intercession. Il représente le renouveau d'adoration dans lequel nous nous trouvons. Il parle aussi du règne de Dieu vers lequel nous allons. L'autel d'or du tabernacle de Moïse est le modèle exact de celui qui se trouve au ciel. Nous voyons cet autel dans Die Offenbarung, c'est-à-dire dans Apocalypse, chapitre 8, versets 3 à 5. Et un autre ange est venu pour se placer sur l'autel. Il tenait un encensoir d'or. Et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir avec les prières, vous avez bien entendu, avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. La fumée des parfums monta avec la prière des saints, de la main de l'ange devant Dieu. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Quoique cet autel soit au ciel, il nous faut comprendre que chaque fois que nous prions dans l'Esprit ou par l'Esprit Saint, nous nous trouvons en vérité devant cet autel. Nous nous trouvons en vérité devant cet autel. Nous sommes plus que la chair et le sang de nos corps physiques. Je voudrais dire une chose personnelle pour ne pas compliquer les choses. Disons qu'une personne qui prie de tout le sérieux de son âme et de son esprit, soyez donc tranquille. Le Seigneur en tient absolument compte. Oh oui, alléluia. Nous sommes donc, je répète, plus que la chair et le sang de nos corps physiques. Nous sommes aussi esprit et âme, amen, une partie de nous, notre homme spirituel, n'est pas limité à cette terre. Lorsque nous nous impliquons dans la véritable intercession, nous adorons là spirituellement. Cet autel est le lieu où montent et sont gardées les prières des saints. L'ange de l'autel veille sur toute chose. Toutes les prières n'arrivent pas forcément sur cet autel, seules celles qui sont ferventes, qui sont, écoutez bien, qui sont simplement sans égoïsme, qui sont remplies de compassion, c'est ceux-là qui vont y parvenir. Cet autel est celui où montent les prières pour les âmes perdues. Avez-vous entendu? Ce qui est important, que nos prières montent pour les âmes perdues et pour celles qui souffrent tellement. Son amoncelées sont donc amoncelées sur cet autel toutes les prières qui sont faites avec amour par tous les saints et pour autrui. Donc, toutes les prières que vous faites pour autrui, pour tous ceux autour de vous, vont donc être réceptionnées avec amour. Les prières des saints de tous les temps se trouvent donc là. Il nous est indispensable de comprendre la nature éternelle de la véritable prière. Aucune sera perdue. Quoique la promesse ait pu parfois tarder, eh bien aucune ne restera sans réponse. À travers les siècles, nombreux sont ceux qui ont pleuré, oh oui, qui ont pleuré devant cet autel en demandant un exaucement de la part de Dieu. Beaucoup sont morts sans avoir vu cette réponse à laquelle ils aspiraient pourtant. Mais leurs prières sont protégées par l'ange qui est toujours présent. Bientôt le Seigneur donnera le signal à l'ange et celui-ci jetera sur terre le feu de ses saintes prières, des charbons ardents d'aspiration humaine, des larmes qui sont versées par des générations passées dont le cri était « Que ton règne vienne au Seigneur et que ta sainte volonté se fasse sur la terre. » De cet autel qui est né de la prière d'intercession des saints, va jaillir le plus grand réveil de tous les temps. Tous ceux qui auront prié pour les perdus et qui auront supplié le Seigneur de fendre les cieux et de descendre pour un authentique réveil auront leur part dans ce mouvement ultime. Ils auront leur part d'héritage parmi les nations venues à Christ. Dieu est fidèle, il est juste, et il n'oubliera aucun acte d'amour. La prière pour les perdus, c'est un investissement éternel du temps présent. Notre compte de prière est bien tenu là-haut, soyez-en assurés. Chacun de nous doit avoir sa portion sur cet autel. Puisse donc Dieu vivifier notre vie de prière afin que cela devienne de plus en plus évident. Quoique l'autel d'or soit un autel de prière volontaire, il dépeint également le réveil final des temps de la fin. Comme chaque objet, oui, chaque objet, nous ont enseigné une vérité, quelle est celle qui révèle ce dernier objet? Que révèle-t-il du dernier réveil? Eh bien, selon Apocalypse chapitre 5, nous devons être préparés par Dieu pour la gloire du trône dans le ciel, et cela fait des siècles qu'il y œuvre. Tout cela dans un but, c'est celui de la gloire de son trône. Apocalypse chapitre 5 nous montre à quoi ressemblera le ciel. C'est un lieu de louange intense. Des multitudes élevant leur voix dans un cantique sans fin pour honorer Dieu. Nous voyons les rachetés au milieu des innombrables êtres célestes et des anges. La louange est assourdissante. Elle montre comme des vagues d'adoration sous une onction d'une telle intensité que seuls des corps qui seront glorifiés pourront la supporter. Et voilà donc l'atmosphère dans le lieu où se trouve le trône. L'intervention suprême de l'Esprit de Dieu sera de nous préparer à cette nouvelle dimension dans laquelle nous entrerons bientôt. Pour ceux qui possèdent l'Internet, cherchez sur votre Internet le témoignage de Marietta sous www.bibleexplique.ch. Dieu commença cette préparation en restaurant les vérités fondamentales concernant le sang de Christ. Dieu termine cette préparation en nous introduisant petit à petit dans des sphères toujours plus hautes de louange et d'adoration. De même qu'un plongeur sous-marin doit démontrer lentement qu'il faut monter depuis le fond très lentement, parce que c'est dangereux. Très lentement monter des profondeurs. Pourquoi? Eh bien, à cause des changements de pression. Et Dieu nous acclimate à la nouvelle ambiance céleste au moyen d'une louange encore plus intense. De même que les rayons du soleil apparaissent avant son lever pour réchauffer délicatement la terre refroidie par la nuit, eh bien Dieu nous donne une petite part sur terre avant d'entrer soudainement dans toute la plénitude. Dans le livre de Amos, au chapitre 9, verset 11, et ajouté Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 16, il est parlé prophétiquement de ces temps-là. la prophétie d'Amos, citée par l'apôtre Jacques dans Actes 16, déclare qu'il, dans Actes chapitre 15, verset 16, déclare qu'il y aura une restauration du tabernacle de David. Dans l'histoire d'Israël, l'époque du tabernacle de David dura environ 40 ans. Elle débuta lorsque David ramena à Jérusalem l'Arche de l'Alliance depuis la maison d'Obed-Édom. David la plaça dans une grande tente sur la montagne de Sion. Dans le tabernacle de David, il n'y avait pas de voile pour cacher la vue de l'arche comme il y en avait dans le tabernacle de Moïse. David a mis en place des Lévites, hommes et femmes, pour garder continuellement et pour honorer la toute présence de Dieu dans l'arche. Ces Lévites ont été regroupés par équipe pour le service et pour le culte, et l'arche n'était jamais laissée seule. L'adoration allait donc de gloire en gloire, 24 heures sur 24 pendant 40 années. Durant cette période, elle croissait pour atteindre un niveau jamais retrouvé depuis. Les collines de Juda retentirent des sons glorieux venant du tabernacle de David. Le peuple louait Dieu en présence de l'arche pour la première fois, et cette louange montait d'un degré à un autre. Ce lieu de gloire, sur la montagne de Sion à Jérusalem, appelé le tabernacle de David, était cher au cœur de Dieu. Aux yeux des hommes, cela avait l'apparence d'une simple tente, mais pour Dieu, c'était comme un palais. Nous pouvons lire au psaume 78, versets 68 et 69. Je répète, psaume 78, versets 68 et 69, où il est dit que Dieu a choisi la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aima, et il bâtit son sanctuaire comme des lieux très hauts, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Le tabernacle de David était spirituellement un palais. C'était un temple construit non de pierre, mais de chair. Pour la première fois, l'arche de Dieu était entourée d'adorateurs. Il n'était pas caché par des voiles. Et pourtant, personne ne mourait au contact de cette gloire-là. Ce tabernacle préfigure l'acte final lorsque Dieu descendra des cieux, et cela de façon surnaturelle, pour demeurer dans le corps préparé qui est l'Église pendant une brève période. De même que les adorateurs dans le tabernacle furent transférés au glorieux temple de Salomon, eh bien ainsi les adorateurs des temps de la fin seront ravis dans la gloire du temple de la Jérusalem céleste. Oui, Dieu parle de la montagne de Sion et de la louange qui s'y créa comme d'un haut lieu, si vous voulez, comme d'un palais. Pouvons-nous concevoir que la gloire de Dieu recouvrait cette petite tente et que l'onction divine éleva la louange à des hauteurs ouvrant le ciel d'Israël? les louanges, ont créé une fente pouvant percer à travers le deuxième ciel. Oui, là où les esprits méchants font la guerre continuellement contre Israël, essayant du reste de toujours de déjouer les plans de Dieu et leur réalisation au moyen de son peuple. Par la louange, eh bien ses ennemis puissants sont liés. Le psaume 149 nous dit avec précision que nous pouvons, vous et moi, que nous pouvons lier les rois avec des chaînes et leurs dignitaires avec des entraves. Comment cela? Oui, comment? Eh bien, c'est au moyen de nos prières et de nos louanges. Il me semble que Dieu préférait le tabernacle de David au temple de Salomon. C'est un engagement uniquement personnel. C'est nous, oui nous, que son cœur désire, que Dieu désire. Il nous veut toujours plus près de lui, caché toujours plus profondément dans son sein. Au jour du tabernacle de David, Dieu prenait plaisir aux petits lévites demeurant toujours auprès de lui, pénétrant nuit et jour toujours plus intimement en sa présence. Ils élargissaient leur capacité pour être sensibles à la gloire de Dieu, montant ainsi graduellement à une puissance, on peut dire à un puissant niveau d'onction. Dieu pouvait donc demeurer au milieu de leur louange à un degré jamais connu par un autre groupe d'êtres humains. Le ciel descendit sur cette petite colline à Jérusalem, voici bien longtemps. Dieu dit que cela était plus splendide que ne le sont les hauts lieux, les palais. C'était sa sainteté qui la rendait belle, qui la rendait vêtue de la broderie ineffable de sa gloire. Dans les derniers temps, notre langage criera une fois de plus de tel haut lieu. Un lieu où terre et ciel vont pouvoir se rencontrer et s'embrasser, où les anges montent et descendent et où les ténèbres sont absolument exclues. Des lieux embellis par la présence de sa gloire. Notre autorité spirituelle dans le combat de la prière est à son apogée lors d'une telle louange. Le psaume 22, verset 4, que nous traduisons souvent par « Tu sièges au milieu des louanges d'Israël ». Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en réalité, selon les textes hébreux, tu es assis sur le trône dans nos louanges. Tu es assis au Dieu trois fois saint sur le trône dans nos louanges. La majesté de la présence de Dieu sur son trône peut se manifester parmi nous alors que nous libérons notre louange afin qu'elle grandisse spirituellement. Nous parvenons finalement à une louange si pure et si parfaite qu'elle devient une louange de couronnement. Selon le psaume 45, verset 8, « Quand nous louons Dieu avec la joie au cœur, il en découle une grande puissance. » Nous voyons cette relation dans le tabernacle de David. durant cette période de haut, on peut dire de haute louange continuelle, eh bien les ennemis d'Israël ont été tous liés. David a chassé tous les ennemis et les frontières furent reculées pour donner à Israël le territoire le plus étendu qu'il ait jamais possédé. Mais ça reviendra pour Israël. Chaque chose en son temps. David conduisit ses armées dans des combats, expulsant ainsi hors du pays les ennemis d'Israël. De même, notre commandement, plutôt notre, on peut dire commandant, on peut l'appeler aussi capitaine, eh bien notre commandant Jésus, dont le roi David était l'image, c'était le roi David représentait l'image de Jésus. Eh bien, notre Sauveur et Seigneur conduira dans la bataille une église qui adore. Quand nous sommes en pleine louange, c'est le moment de lier l'ennemi spirituel qui veut bloquer la moisson. L'église revêtue de l'Esprit Saint sera et est capable de faire fuir ses ennemis les plus terribles. Elle doit reprendre les territoires perdus pendant l'âge des ténèbres. Dieu a promis une complète restauration, il a promis de lui rendre les années perdues dans Joël, au chapitre 2, verset 25. Il lui a promis la gloire de sa présence et les nations pour héritage. Ces deux choses dépeignent, on peut dire, vont dépeindre les caractéristiques de l'intervention ultime de Dieu sur la terre. Nous en voyons déjà les prémices dans les églises à travers le monde. Jésus a dit, levez les yeux et regardez la moisson. Il a dit cela dans Saint Jean au chapitre 4, verset 35. Partout, les églises lèvent les yeux et regardent avec compassion ceux qui sont perdus. Oui, ceux qui sont perdus et agissent ainsi en conséquence. Voyez-vous, quand une église est repliée sur elle-même, eh bien jamais ses problèmes internes et son mécontentement ne seront résolus. Plus un groupement est centré sur lui-même, plus il y aura un manque d'unité. L'Esprit Saint ne peut jamais cheminer uniquement avec la chair. Notez Ésaïe chapitre 52, verset 7. Là, on nous parle d'un peuple avec de beaux pieds se tenant sur la montagne pour apporter la bonne nouvelle du salut. Alléluia. Ésaïe dit que ce peuple verra face à face. Il y a un nouvel intérêt porté aux missions dans le monde, mais ce n'est là qu'un petit début de ce grand et dernier mouvement à venir. Ézéchiel voyait un grand fleuve dans les derniers temps, dont le flux transmettait carrément la vie à tout ce qu'il touchait. Il voyait que cette rivière commençait par un petit ruisseau avant de devenir un grand fleuve. Actuellement, l'eau de ce fleuve a dépassé nos chevilles et a atteint le niveau de nos entrailles. Comment est-ce que je le sais? Oui, comment? Mais parce que les entrailles parle de miséricorde et quand nous devenons un peuple compatissant, eh bien nous sommes dans les eaux de l'Esprit qui atteignent nos entrailles. Comment pouvons-nous aller encore un peu plus loin? Comment atteindre une eau suffisamment profonde pour y pouvoir y nager? Eh bien, ce fleuve des temps de la fin commence tout doucement à monter, à nous entourer, mais la question se pose, que se passera-t-il désormais? Eh bien, voici la réponse pour l'avenir. Oui, voici. Certainement, de ces réponses se trouvent dans l'Ancien Testament et certaines caractéristiques de ce mouvement final peuvent aussi être discernées lorsque nous étudions à quoi servait l'autel des parfums dans le tabernacle de Moïse. Cet autel préfigure le lieu où rencontrer Dieu, où l'Esprit de Dieu qualifie son peuple. Un autel, tout autel, est une table dressée en vue d'un sacrifice. Et celui-ci est un autel de prière et de culte. Les sacrifices de prière du peuple de Dieu brûlent sur cet autel. Dieu n'agit que par la prière. Quand cet autel sera suffisamment embrasé par la prière dans l'esprit du peuple de Dieu, eh bien la dernière effusion de l'esprit de Dieu se répandra sur toute chair. Le réveil se prépare au moyen d'un travail d'enfantement qui se trouve dans la prière et dans l'adoration, et cela dès maintenant. Maintenant, nous ne devons pas séparer cet autel de la compassion pour les hommes perdus. Ce qui a non seulement touché la vie d'Ésaïe, mais lui a donné un cœur compatissant, furent donc les charbons ardents venant de cet autel-là. Et c'est là qu'il s'est écrié « Me voici ». Envoie-moi, après en avoir été touché. L'encens représente donc la prière et l'adoration dans les Saintes Écritures. Notez Apocalypse chapitre 5, verset 8. La composition de l'encens créé spécialement pour cet autel, lui donnait le saint parfum agréable à Dieu. Cet autel se situait devant le propitiatoire et devant l'arche. Et la fumée parfumée montait au-dessus du voile, remplissait le lieu très saint de nuées odorantes. Alors que nous pénétrons pleinement dans ce prochain mouvement de l'autel d'or, Dieu exige que tous ceux qui vont de l'avant et qui désirent le connaître plus profondément, plus intimement, doivent soumettre leur prière et leur adoration à une plus grande maturation. Dieu ne nous dit pas que toute prière vraie cessera d'être entendue comme elle l'a toujours été. Non, Dieu entend toutes nos prières. Son oreille entend toujours nos cris. Mais si notre désir est de le servir dans cette nouvelle dimension qui s'ouvre devant nous, eh bien, nous devons l'atteindre par le chemin préparé par lui, par Dieu. Il nous faut découvrir ce que représente cet encens tout spécial et nous devons y impliquer, nous y impliquer totalement, chacun d'entre nous mettant en pratique dans notre vie de prière personnelle ce que nous montre le Saint-Esprit. À notre vie de prière actuelle, représentée par l'encens, nous devons ajouter du galbanum, ce qui signifie le meilleur, le plus excellent, celui qui coûte le plus cher. Le galbanum pourrait représenter l'obéissance totale, une soumission complète de notre volonté à celle de Jésus-Christ. Notre volonté est ce qu'il y a de plus difficile. C'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à soumettre et à offrir à Jésus. Toute notre richesse, tout ce que nous possédons, donné pourtant librement, ne peut avoir la valeur de notre propre volonté qui est soumise à lui. Qui plus est, sans notre soumission, toute autre chose que nous pourrions lui offrir demeure absolument sans valeur. Notre volonté est la meilleure et peut-être la seule chose que nous pouvons offrir à Christ. Tout ce que nous possédons nous vient de lui, et nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné. Chers amis, quelle est la signification de l'appellation Seigneur? Eh bien, le galbanum représente une vie qui est soumise à la seigneurie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le titre de Seigneur a perdu de sa valeur. Nous ne comprenons plus ce que ce mot signifie vraiment. Dans le Nouveau Testament, parlant de Jésus le Seigneur, les mots « despote » et « kurios » sont utilisés en grec. Ces deux mots parlent de quelqu'un ayant autorité suprême de vie ou de mort sur ses sujets. Il signifie « monarque », « maître », « propriétaire », « celui qui exerce tout contrôle ». Oh, cela, aujourd'hui, ne plaît pas à cette nouvelle génération. Mais cela nous dit que celui dont c'est le titre est suprême, que à lui revient tout honneur, qu'il est tout puissant. Il est le maître de tout. Celui que nous appelons Sauveur Jésus-Christ est aussi notre Seigneur. Il ne nous imposera jamais sa seigneurie de force. Nous devons nous y abandonner volontairement. La plupart d'entre nous cheminons petit à petit vers cette soumission jusqu'à ce que notre brisement soit total. Et c'est alors que son autorité sur nous est absolue, non pas en parole, mais aussi en pratique. Ce n'est pas facile d'y parvenir, mais c'est essentiel si nous voulons aller de l'avant, intégrer à ce mouvement vers l'autel d'or. Le galbanum nous parle de cet état ou cette situation où Dieu nous conduit par son travail en nous, là où il peut enfin prendre possession de nos cœurs, il est notre Seigneur. il est notre maître. Fléchissons donc le genou dès maintenant, devenons un peuple au cœur, à l'âme et aux forces soumises à la volonté du Père. Puisse le Seigneur nous aider aujourd'hui à ajouter notre galbanum à notre encens. Puisse-t-il vraiment être notre Seigneur et nous puissions être son peuple appelé par son saint nom. Nous ne pourrons jamais le connaître comme époux tant que nous ne nous prosternerons pas devant sa seigneurie. Si nous voulons le connaître pleinement, alors ce composant du parfum nous montrera que l'abandon total est une condition préalablement nécessaire pour pouvoir nous approcher de lui. Nous arrivons au dernier ingrédient, rappelez-vous, de la coquille odorante ou onicha. Cela veut dire rugir comme un lion féroce. Il vient après l'ingrédient nommé juste avant et il en est la suite. Le lion représente le jugement divin. Jésus revient pour juger le monde comme un lion. Nous connaissons tous l'aspect et la nature de l'agneau dans laquelle Christ s'est manifesté lors de sa première venue sur terre. Il est venu tel un agneau, et il est mort comme l'agneau de la Pâque. Mais attention, quand Christ reviendra, il sera le lion de la tribu de Judas. C'est le côté de sa nature qui fera la guerre à tous ses ennemis. Joël chapitre 3 verset 16 nous dit que l'Éternel rugira d'en haut et de sa demeure sainte, il fera entendre sa voix. Cela nous concerne. Cela nous concerne, nous qui sommes son peuple. Oui, nous sommes sa demeure. Nous sommes la coquille odorante où on ira, nous montre ainsi que Jésus-Christ veut que nous rugissons contre tous ses ennemis. Bien avant son retour physique et visible sur le mont des Oliviers, Jésus-Christ possédera de jeunes lions au travers desquels il veut rugir sa sainte indignation. Il possède un peuple accomplissant les jugements prononcés depuis très longtemps, mais qui n'ont jamais été jusqu'ici mis en application par nous qui sommes son peuple. Par ses souffrances, Jésus-Christ a payé le prix afin que toute œuvre des ténèbres soit détruite. Nous devons lui permettre d'accomplir cela à travers nous. Nous devons proclamer sa sainte parole. Nous devons condamner les œuvres sataniques et ténébreuses comme étant des actes illégaux. Nous exécutons verbalement ce que Jésus a déjà accompli. Jésus-Christ nous appelle à l'heure actuelle à agir avec beaucoup plus de hardiesse spirituelle. Les justes sont forts comme des lions. Le psaume 149, verset 5 jusqu'au verset 9, parle de l'effet de l'onicha sur notre vie de prière. Que les saints se réjouissent de la gloire qu'il exulte avec chant, chant de triomphe, sur leur lit. Oui, les louanges de Dieu, ou les hautes louanges en d'autres versions, comme la version Schlachter et beaucoup d'autres des versions fabuleuses américaines, sont dans leur bouche une épée à deux tranchants dans leurs mains pour exécuter la vengeance contre les nations, des châtiments au milieu des peuples pour lier leur roi de chaîne et leur noble de sceptre fer et pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. Cette gloire, elle est pour tous les saints, pour vous comme pour moi. Louez donc l'Éternel. Amen. Oui, cette gloire est pour tous les saints. Tous y ont part. Ce n'est pas que pour une élite spéciale. Tous les saints devraient exercer ce privilège. Chers amis, pour terminer cette étude, eh bien, voyez-vous, Ésaïe n'a pas pu voir Dieu que après la mort du roi Ozias. Eh bien, que Dieu puisse ôter de notre vision tout roi et toute circonstance occupant ainsi notre attention. Que nous soyons réellement touchés par les âmes afin d'intercéder avec une sainte ferveur. Vous êtes, vous et moi, sauvés, non pas pour nous asseoir dans un fauteuil, même à mon grand âge, et d'aller simplement s'asseoir gentiment au bord de la mer pour bronzer entre deux palmiers. Je plaisante un peu, pardonnez-moi. Non, you are saved to serve. Nous sommes sauvés pour servir. Joël chapitre 2 verset 32 nous dit que quiconque invoquera son saint nom sera perdu. Non, jamais. Je répète, Joël chapitre 2 verset 32 nous dit que quiconque invoquera son saint nom sera sauvé. La purification des péchés les plus honteux, la guérison des maladies les plus graves, c'était mon cas. L'expiation des pires perversions, c'était aussi mon cas. Tout cela est le partage de celui ou de celle qui invoque son saint nom. Dieu se lève avec la guérison dans ses ailes. Puisse le Saint-Esprit accomplir une œuvre radicale de purification parmi son peuple, ôtant toutes les rides et les taches, car sa gloire descend sur sa sainte demeure. Nous avons vu dans Ésaïe chapitre 4 que tous ceux qui feront l'expérience de ce temps de purification seront appelés saints et ceux qui sont saints seront couverts par sa divine gloire. Alléluia. S'il vous plaît, chers amis, maintenant, pour terminer, prions ensemble, une toute petite prière avec notre cœur, avec notre esprit. Disons ensemble, viens, Esprit Saint, asperge-nous cette fois encore de ton sang précieux. Purifie-nous, Jésus-Christ, cette fois encore de notre péché et de notre moi. Aide-nous, Jésus, à nous abandonner réellement à ta Seigneurie pendant ces temps de préparation. Chers amis, Que sera ce dernier mouvement? Ce sera notre préparation ultime aux joies célestes. Amen. Amen. Chers amis, merci pour l'intérêt que vous portez à ces études un peu, pas toujours très faciles, profondes en tout cas, car vous pouvez bien comprendre que avant de commencer une telle étude, ça ne me tombe pas dans la bouche automatiquement. Oh non, pas chez moi. Oh là là, j'ai dû piocher dur. Mais voilà, le Seigneur permet que je puisse le faire, même à mon grand âge, uniquement par lui, car le corps ne pourrait pas le faire par lui-même. Oh non. C'est miraculeux, tout est miraculeux au fond. Dieu est un miracle en lui-même, pour nous, pour nous sauver, pour nous guérir. Vous, mes chers amis, par amour, par compassion, il vous aime. Et à demain matin, Dieu voulant, pour la suite. Au revoir, très chers amis.